Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, comme chroniqueur, nous aurons Denis Martin Chabot en deuxième partie d'émission pour sa chronique arc-en-ciel. Et il nous parlera de personnes de la communauté LGBTQ+, disparues l'année dernière. Pour cette première demi-heure, nous recevons Laurie Perron. Laurie Perron qui est co-réalisatrice et co-animatrice de la troisième saison du balado queer féministe, indépendant et interrégional, toutes ou pantoutes. Alors on la reçoit dans un instant. Pour le moment, on part en musique avec Lisa Leblanc. Pourquoi faire aujourd'hui ? On y va.
Pourquoi faire aujourd'hui ? Que tu pourrais faire demain ? Pourquoi faire aujourd'hui ? Que tu pourrais faire demain ? Pourquoi faire aujourd'hui ? Que tu pourrais faire demain ? Pourquoi faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list, passer le balai, passer la mop, appeler ma mère, faire du bénévolat, on va-tu prendre un café, on va-tu prendre une drink? Il fait beau soleil, sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, c'est une deuxième. Me couler un bain, me semble, je le mérite. Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain?
Et voilà, alors, chose promise, chose due, Laurie Perron est avec nous. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Est-ce que ça va?
Oui, ça va très bien, toi?
Alors, oui, ça va bien. Alors, on va parler de ce balado, donc, toutes ou pantoutes. D'abord, j'ai beaucoup aimé le titre, et puis j'ai écouté celui de décembre, qui a été fait juste avant les fêtes.
Oui, c'était notre collaboration avec un autre balado.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce balado? Qu'est-ce que ça amène? Comment ça a été créé? Je sais qu'il y a 10 000 questions en une. Et pourquoi?
Bon, je vais faire de mon mieux pour répondre au plus de questions sur 10 000. Ça s'appelle Toutes en Toutes, donc parce que c'est un balado qui est un balado queer, féministe et interrégional. Donc, nous-mêmes, on a plusieurs définitions en une. Dans le fond, ça veut un enjeu qui discute. Un balado qui discute des enjeux féministes, des enjeux de tous les jours, mais toujours sous un angle queer et féministe.
Je te demande une toute petite seconde, Laurie. Est-ce que, quand tu parles, tu as mis l'ampli de ton téléphone?
Parce que oui. Non.
Ah bon, parce qu'on t'entend comme il faut, mais ça fait comme si tu résonnais. Est-ce que c'est un... T'as des oreillettes?
directement dans le téléphone.
Directement dans le téléphone. Bon, bah alors écoute, mais on comprend toujours, mais ça fait comme un peu comme si tu étais un petit peu loin. Alors c'est pour ça que j'ai cru que tu le faisais dans ton. Tu le faisais avec l'ampli. Alors continue, excuse-moi de t'avoir coupé.
Ah, bah il n'y a pas de problème. Je vais parler plus fort et plus lentement, peut-être, pour être mieux compris. Donc, oui, un balado queer féministe interrégional qui a été créé par moi et une amie il y a maintenant 2 ans. Et voilà, donc, on est des amis de longue date et on trouvait que les enjeux étaient souvent discutés de façon très académique. Et souvent, les réalités régionales étaient exclues, mais comme moi, je suis originaire de la Saint-Jean, Alexandra a grandi en Abitibi, elle habite dans le bas du fleuve maintenant, on trouvait que c'était important de recentrer un peu les discussions et les réalités régionales dans nos discussions féministes. Voilà.
Parce que tout ce balado, il y a tout plein de sujets différents qui vont être prévus, mais sous un angle féministe, queer et interrégional. Alors... Ça, c'était très intéressant. On va parler du premier de l'année qui arrive le 13, puisque chaque épisode, il y a des entrevues, il y a des individus, puis il y a dans les invités, il y a un sujet, il y a une thématique. Donc, j'ai vu que le premier épisode de la saison traitera d'asexualité.
Oui, exactement.
Quand on parle d'asexualité, ça veut dire qu'on n'en a pas du tout.
Ben oui, c'est une orientation sexuelle à part entière, justement, qui désigne les personnes qui ressentent très, très peu ou pas du tout de désir sexuel envers d'autres personnes. Voilà.
D'accord. Je trouve que c'est important parce que ça doit certainement pas être la première fois que ça existe. Et en même temps, ça n'a jamais su être décrit. Aujourd'hui, ça porte un nom. Et aujourd'hui, ça peut s'expliquer.
Exactement. Puis c'est en expliquant, puis en parlant de ces situations particulières-là qu'on les fait exister en quelque sorte. Ça peut faire du bien aux personnes qui le vivent, mais ne savent pas mettre les mots dessus, parfois d'en parler plus largement.
Ça permet de savoir un petit peu autrement comment est la personne et puis de poser des questions. Est-ce qu'après chaque balado, par exemple, quand on a appris quelque chose sur certaines choses, est-ce que tu reçois des courriers? Est-ce que toutes les deux, vous recevez des courriers? Vous avez des demandes, des questions qui se posent après coup?
Oui, on reçoit beaucoup de communications. On communique beaucoup avec les gens qui nous écoutent, avec nos auditeurs, comme on les appelle. Souvent, via les réseaux sociaux, les gens réagissent beaucoup. Parfois des questions, souvent des apports, même des choses que nous, on n'a pas pensé à dire parce que chacun, on a nos réalités, mais évidemment, on n'est pas dans la tête de personne d'autre. Puis parfois, nos auditeurs pensent à des choses encore plus brillantes que nous. Puis ça fait plaisir de nous aussi de poursuivre nos réflexions avec les gens qui nous écoutent.
Comment viennent les sujets? Est-ce que, par exemple... vous avez toutes les deux dans vos bagages déjà des questionnements, des choses que vous voulez faire savoir, ou bien c'est en parlant autour de vous et avec ceux qui ont répondu au premier balado pour poser des questions, par exemple? Les sujets, ils sont trouvés comment?
En fait, pour l'instant, on est très chanceux. On a un peu plus d'une vingtaine d'épisodes qui sont prêts, qui sont sortis. Donc, on n'est vraiment pas à court des sujets qui nous intéressent. Honnêtement, à chaque fois qu'une de nous a une idée, ça donne que l'autre est intéressé par le sujet. Et si on le connaissait, ça nous fait plaisir de rechercher là-dessus et d'apprendre. Mais souvent, c'est des sujets qui, oui, nous touchent directement, puis on a envie de pousser plus loin et d'aller voir ce que d'autres en ont pensé. Et certains des sujets nous ont été suggérés, oui, par des auditeurs. Souvent, en fin de saison, on faisait un petit post sur nos médias sociaux pour demander de quoi vous aimeriez qu'on parle, à quoi on n'a pas pensé.
D'accord.
Certains sujets sont venus comme ça, comme un épisode qu'on a fait sur le véganisme, entre autres, qui est venu d'une auditoriste qui finalement s'est révélée être notre invitée, qui est aussi une artiste, qui est une belle grande fille. Mais ça arrive un peu de partout. On prend les sujets qui passent et on les rentre dans notre angle interrégional queer féministe. On y va comme ça.
Alors, c'est des entrevues qui se font 2 fois par mois, c'est ça?
Oui, les épisodes sont lancés aux 2 semaines. Ils vont être lancés aux 2 semaines de janvier jusqu'au mois de mai. On va en avoir tout l'hiver et début de printemps.
Et ça se passe comment, les entrevues, avec justement ce qui se passe? On les fait au téléphone? On les fait comment? On les fait de loin? On les fait...
Oui, bien, on fait tout de façon virtuelle. De toute façon, de par la nature du projet qui est interrégional, on est très rarement ensemble.
Oui.
Même Alexandra et moi, on fait tout à distance. Donc, oui, ça se fait complètement par Internet. Là, présentement, nos entrevues ont pas mal toutes été enregistrées, donc on est très prêts à lancer la saison.
Oui, je comprends.
Tout en ligne. Pas de contagion.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une pause musicale. Et puis après cette pause musicale, eh bien, j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans les thématiques qui vont être choisies. J'en ai une ou deux dont j'aimerais parler avec toi.
Parfait.
Voilà. Donc, on va partir en musique avec Bon Enfant, le groupe Bon Enfant qui chante Porcelaine. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Puis, on discute un petit peu de certaines des thématiques. OK ? À tout de suite. On est de retour avec Laurie Perron. Alors Laurie, parlons un petit peu de tout ce qu'il va y avoir d'autre. Il y en a certains, quand je les ai lus, qui m'ont plus intéressée. Enfin, pas plus intéressée, mais je suis très intéressée de savoir comment ça va être discuté. Par exemple, tu parles de l'humoriste Coco Béliveau, qui parle de grossophobie et biais genré au sein du milieu de l'humour.
Oui.
De la difficulté de vivre son genre et de vivre son poids sur scène, dans le milieu de l'humour, c'est ça?
Oui, mais dans le fond, on voulait explorer la question des biais sociaux en général. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on considère une personne différemment ou un peu moins que d'autres?
Oui.
Et Donc, on a décidé d'aller vers la grossophobie et on trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler au niveau de l'humour. Donc, avec Coco Béliveau, c'était intéressant de voir. Je veux pas voler de scoop encore.
Non, mais c'est juste parce que c'était intéressant cet éclairage-là, effectivement, dans le lieu de l'humour. Donc,
Oui, parce que dans l'humour, on fait beaucoup de blagues, des blagues de gros, là. On en entend tout le temps. Alors, de voir justement comment un peu de se réapproprier ça, en quelque sorte, ou comment on peut vivre quand on vit cette situation-là et qu'on est dans le milieu de l'humour
Bien
et comment nous, on peut l'utiliser différemment. Ça va être vraiment intéressant d'entendre Coco Béliveau en parler, oui.
Est-ce que, avant de parler d'autres sujets qui sont là, est-ce que toi, ça t'a appris plein de choses depuis que tu fais ces balados?
Ah, énormément. C'est une des principales raisons pour lesquelles on a commencé le balado, c'est qu'on a une soif d'apprendre toujours. Puis si on se donne pas le contexte pour aller faire des recherches, pour écouter des gens qui parlent de différents sujets, c'est quelque chose qui est facile à reléguer puis à mettre de côté, mais en se forçant à le faire, ben nous, on apprend au moins autant qu'on aide les autres à apprendre, je pense.
Alors, il y en a une qui m'a interpellée, c'est la poétesse Maya Cousineau-Mollen qui partage ses réflexions sur le sujet de la colère. Parce que ça vient tellement vite, ça, la colère, en tout cas pour moi.
Ça va être vraiment intéressant, oui, parce que dans ses recueils de poésie, Maya Cousineau-Mollen, la façon dont elle parle de la colère m'a extrêmement touchée quand je l'ai lue. Alors, dès qu'on a voulu parler justement des biais sociaux, parce que ça va être dans un bloc un peu avec l'autre sujet de la grossophobie, parce que la colère n'est pas exprimée, considérée et perçue de la même façon si elle est exprimée par une femme ou un homme ou une personne d'une minorité de genre ou par une personne autochtone dans ce cas-ci. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment elle va ressentir que sa colère est perçue.
Oui.
Et cet épisode-là va être en plus spécial parce qu'il va être animé complètement par notre nouvelle collaboratrice, qui est Myriam Gabriel-Archin, qui est elle aussi une femme, qui est une femme noire afro-descendante. Et il va y avoir d'autres invités spéciales qui vont venir dans cet épisode-là. Fait que ça va être uniquement des femmes racisées qui vont parler de leur, ou autochtones qui vont parler de leur réalité face à la colère.
Ah, très intéressant. Passionnant. Bon, ben, je regarderai ça. Et il y a eu aussi, la chercheuse et activiste Carole-Anne Souffrant, on dit, qui parlera de ses recherches au sujet des mouvements MeToo et agressions non dénoncées. Alors ça aussi, ça a été un moment intense. Ce sont des choses qui se continuent. Il faut continuer à le savoir. Donc, on va nous parler de quoi? De ce qui se passe là-dessus, des choses plutôt positives qui ont pu se faire ou des choses négatives qui continuent?
un peu de tout ça. Ce qu'on essaie de voir, entre autres, dans cet épisode-là, c'est comment on peut gérer et vivre le plus sainement possible des relations hétérosexuelles suite à tout ça. C'est quoi notre approche face à la cause, un peu?
Oui.
Parce que, bon, on se fait souvent dire on peut plus rien dire, c'est difficile d'approcher les femmes, mais justement, on voit... qu'est-ce que ça a été l'impact de ces mouvements-là sur les différentes impressions qu'on a de la cause et des relations hétérosexuelles. Mais oui, on essaie de rester positif, mais c'est certain qu'il y a beaucoup de statistiques là-dedans qui sont très choquantes si on les a jamais entendues ou un peu déprimantes quand on les entend tout le temps. Mais bon, on fait de notre mieux pour rester toujours dans la lignée de ce qu'ils sont.
Est-ce que là-dedans, enfin, excuse-moi si je dis comme ça, mais est-ce que, par exemple... il n'y a pas des gens qui confondent entre l'excès de tout et l'excès de rien, alors qu'il y a un juste milieu à avoir, et que c'est un apprentissage.
Probablement.
Non, parce que ça semble comme ça. Tu sais, quand on en parle, on dit « Ah ben oui, mais maintenant, on ne peut plus rien faire, on marche sur des œufs. » Mais il y a des limites au fait de savoir ce qui est agressant et ce qui n'aurait jamais dû être fait, qui est rentré dans des habitudes, des choses familières, qui n'auraient jamais dû devenir des choses familières.
Ah oui, j'avais mal compris ta question, mais absolument. Je pense que c'est clairement pas vrai qu'on peut plus rien dire, que c'est bien correct d'apprendre qu'est-ce qui est allé trop loin pour essayer de te parler mieux, puis oui, trouver un juste milieu là-dedans. Puis il faut pas non plus avoir le réflexe de se taire complètement puis de ne plus rien dire. Donc,
voilà, c'est ça.
Communication, c'est absurde. Puis oui, c'est quelque chose dont on va parler exactement dans cet épisode-là en plus. Ouais.
Parce que j'ai l'impression que c'est important parce que J'entends sur MeToo des choses qui ont été excellentes, puis des choses qu'on trouve trop, et puis voilà, il y a des jugements qui se font un peu trop hâtifs, et ça semble partir de l'excès d'un sens à l'excès dans l'autre, tu vois. Et ouais. C'est pour savoir si grâce aussi à ce balado, on peut se remettre dans le milieu, apprendre, savoir, comprendre, tout simplement ouais. comprendre au départ qu'il y a des choses qui n'auraient jamais dû rentrer dans les habitudes, ou la facilité, exactement. Ou la familiarité. Voilà.
Oui. C'est ce qu'on cherche à faire avec le balado en général aussi, se donner un espace où on peut se tromper, puis on peut apprendre de nos erreurs, puis c'est important de continuer à la limite de faire des erreurs pour pouvoir en apprendre justement.
Voilà, donc continuons sur tout pantoute. Donc sur ce projet multidisciplinaire, il va y avoir une illustration d'une artiste visuelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir on va voir une vidéo à côté.
Non, c'est ce que ça veut dire en fait, c'est qu'à chaque épisode est diffusé sur plein de plateformes de balado diffusion, mais il va avoir une image qui a été faite par une artiste différente. Donc pour d'accord. chacun des épisodes, sur chaque sujet, fait qu'on donne à l'artiste l'épisode, elle peut écouter nos propos et faire une illustration de ce que
et
ça
elle
lui
crée une illustration, d'accord.
Exactement. Donc on va avoir 10 illustrations différentes dans la saison.
Ok, alors j'ai une illustration là sur Charlie Bourdeau, qui est illustratrice oui. aux valeurs féministes et queer. Et donc je vois une image, donc dans l'image, c'est une femme. Une femme, on ne pourrait pas dire, qui appartient au monde, j'ai envie de dire, hein. Parce
oui,
qu'elle
oui.
a l'air de venir d'un
c'est
peu
une
partout.
Une personne du monde. Hein.
Une ouais. personne du monde, on va dire ça comme ça. Voilà, qui est en train de pleurer sur une main qui est ni masculine ni féminine, mais les deux à la fois.
Oui,
enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai, c'est l'image que j'en ai quand je la regarde.
Oui, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que cette image-là va illustrer l'épisode sur la sexualité, puis on voit un beau moment finalement. Ce que moi, j'en vois aussi, c'est de tendresse entre cette main-là qui fait seulement un toucher sur le visage, mais c'est pas quelque chose de sexuel, mais visiblement, c'est intime et touchant.
Un geste de tendresse.
On peut comprendre qu'elle pleure, mais oui, c'est tendre. Donc, oui, c'est magnifique. Première illustration par Charlie Bourdeau pour nous.
Bravo. Donc, je présume que tout le monde doit être hyper content de cette troisième saison, puisque ça démarre bien, les gens le suivent bien. Est-ce qu'il y a de plus en plus de monde au fil du temps?
Oui, ça augmente de façon, comment dire, de plus en plus rapide, de plus en plus de gens, c'est facile à voir.
par ceux qui ont besoin qu'on décrive peut-être leur vie ou leur détresse, et par ceux qui veulent apprendre aussi?
Exactement. On espère que c'est un peu pour tout le monde, finalement, puis qu'on est moins académique que les sujets sont parfois. Ouais.
Bah, les sujets ne sont pas vraiment académiques, hein. On parle d'un petit peu tout, et puis après c'est suivant l'élan, la personne qui répond, ce que ça provoque chez l'autre, c'est là où la créativité rentre en jeu, quoi, pour
exactement.
Nous parler de tout ça. Laurie, on arrive à la fin de cette entrevue.
Merci de m'avoir reçu.
Écoute, ça a été un plaisir, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors je dois dire que moi je ne connaissais pas. Donc maintenant, je vais le suivre. Voilà. Parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent d'apprendre et de savoir un petit peu comment ça va se passer. Alors, on te remercie beaucoup. Et puis, on te souhaite le meilleur à vous toutes. Et puis, on finit avec la chanson de Sappho qui s'appelle Jolène. Au revoir, Laurie.
Au revoir, merci.
Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Beyond compare, with flaming lock of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a
dress of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can.
Alors restez avec nous parce que pendant la deuxième demi-heure, nous serons avec Denis Martin Chabot pour sa chronique Arc-en-Ciel, chronique dans laquelle il va nous parler des grands disparus de 2021 dans les communautés de LGBTQIA+. Voilà, restez avec nous, à tout de suite.
Faramineux avec Arlette Farah.
Je me souviens d'avoir aimé un certain sourire. Qu'est-il resté des jours merveilleux de printemps, de l'amour des cœurs adolescents? J'étais jaloux du doux secret d'un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain. Casino, entre mes bras, abandonnée, elle gardait ce certain sourire. longtemps après. Mon cœur a compris que jamais, non jamais, son cœur ne m'aimerait. Quand la radio joue cet air-là, j'ai toujours mal d'avoir aimé un certain sourire. Je l'aimais tant que je suis toujours prêt à vivre ou à mourir. Oui, même à mourir pour un certain.
Alors, on vient d'entendre Michel Louvain qui nous chantait Un certain sourire. Bonjour, Denis Martin.
Salut, Arlette. Bonne année. On peut se le dire encore, hein, c'est le mois de janvier.
Bonne année. J'ose même pas dire bonne année. J'espère seulement qu'elle va être bonne. Et Denis Martin, on a écouté cette chanson parce que Michel Louvain fait partie des grands disparus de 2021.
Oui, des communautés de LGBTQIA+. En fait, en avril, Michel Louvain a appris qu'il souffrait d'un cancer de l'œsophage, un cancer fulgurant d'ailleurs, alors qu'il s'apprêtait à entamer une tournée de spectacles à travers la province. Alors, son état s'est vraiment rapidement détérioré et il a rendu l'âme le 14 avril à l'âge de 83 ans. Il a laissé dans le deuil des milliers de dames en bleu.
Oui.
C'était vraiment son grand succès. Je ne l'ai pas fait jouer parce qu'on la connaît, cette chanson.
Oui, on la connaît un peu trop.
Mais... Un certain sourire, c'est vraiment une de mes chansons préférées. Je trouve ça beau, une belle nostalgie là-dedans. Ça nous rappelle nos étés sur la galerie en train de boire. Quand on est jeune, on buvait nos gazeuses. Et puis voilà, en tout cas. Oui, il y a tout plein de souvenirs dans cette chanson-là. Alors, quelques jours avant de mourir, le chanteur s'est marié à Mario Théberge.
C'est son
conjoint avec qui il entretenait une relation discrète depuis les 25 dernières années. Et en fait, Michel Louvain était très discret sur son orientation sexuelle, mais finalement, tu sais, Arlette, tout le monde le savait.
Oui, c'est vrai.
C'était
pas
un
secret. Non, oui.
Non. Puis je pense que quelque part, un peu à cause de ça, il a contribué à la cause de LGBTQIA+. Des fois, il y a des gens qui contribuent d'une autre façon. Il n'était pas une personne extravagante sur sa vie, mais tout le monde le savait et c'était quelqu'un que tout le monde aimait. On aimait Michel Louvain parce que c'était un gentleman. C'était une personne qui avait de la classe. C'était un artiste professionnel. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises.
Ah, d'accord.
Et vraiment quelqu'un de bien. Alors, son départ, ça a eu tout un effet, hein, toute une bombe, en fait, sur tout le milieu artistique qui en fait, tout le monde a souligné, comme moi je viens de le faire, la gentillesse et le professionnalisme de Michel Louvain.
Oui, c'est vrai que c'était reconnu, il était reconnu comme ça.
Ah oui, oui. Et puis, moi, je me rappelle juste une anecdote. J'ai fait un lancement de livre pour Dave Courage. Et le livre que j'avais écrit sur Dave Courage, il était là parce que c'était un ami de la mère de Dave Courage. Et il est venu avec son conjoint, puis d'une gentillesse. En fait, je m'en rappelle, mais je m'en rappelle pas. J'étais malade cette journée-là, mais j'ai vu des photos. À mon propre lancement de livre, j'y étais pas. Faut le faire. Bon, j'organise une fête, puis je me présente pas. On a vraiment... Donc, connu cet homme-là par sa carrière, qui est parti sur des chapeaux de roue en 58. Buenas noches, mi amor.
Hein, ah oui, bon, oui, ça va. Ne cherche pas à la chanter, s'il te plaît.
Non, c'est pas mon métal. Hein. Je vais quand même passer assez rapidement. On sait qu'il a fait des émissions de télé. Évidemment, La Dame en bleu, qui a été grand succès. Et vous savez qu'il ne voulait pas la chanter, cette chanson-là, au départ. Il a fallu le convaincre. Et quelle aurait été l'erreur, hein, parce que ça l'a fait connaître d'un bout à l'autre de la francophonie, cette chanson-là.
Ah ben oui, ça c'est sûr, c'était un grand monsieur. Eh bien, il y a un autre grand monsieur et un autre Michel dont tu voulais nous parler aussi.
Oui, Michel Girouard. Alors lui, il nous a quittés un peu en même temps. En fait, Il a rendu l'âme, lui, quelques jours avant, le 9 avril 2021. Journaliste artistique, Michel Girouard, a rendu l'âme, il avait 76 ans.
Ah oui, quand même.
Pourquoi je parle de ce gars-là? C'est un grand spécialiste du védétariat, des événements de Jet Set, hein, des chroniques champagne et caviar, Allô vedette, on le voyait dans tout plein d'émissions. Mais en fait, c'est que Michel Girouard a été un des premiers au Québec à afficher ouvertement, contrairement à Michel Louvain, lui s'est affiché ouvertement son homosexualité, en annonçant son mariage avec son conjoint d'alors, le pianiste Régent Tremblay, en 72.
En 72, ce qui est pas mal quand même en 72. Hein, quand on voit ce qui se passe encore en 2022, ça, c'est impressionnant.
Alors, ça, le mariage n'était pas permis, mais il a fait comme un mariage, si vous voulez. Puis, il a écrit aussi son autobiographie dans laquelle il raconte ouvertement son homosexualité. Il faut vraiment le faire. Vraiment le faire. Alors, ouais. c'est quelqu'un qui a contribué complètement à la façon opposée de Michel Louvain. Lui, il s'est vraiment exposé. Il a mis ça dans la face des gens. Et tout le monde a aimé Michel Girouard parce qu'il était gentil aussi.
Ben oui. On va justement, tiens, en hommage, on va écouter une chanson de Michel Girouard qui chantait « Pour ne pas être seul ».
D'accord.
Si
pour
le chan-
ne pas vivre seul, on vit avec des chiens, on vit avec des roses ou avec des croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime des souvenirs, des ombres, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, jusqu'au prochain printemps, pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, et l'on voit même des garçons épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, on se fait des amis et on les réunit. Quand viennent les soirs d'ennui, on vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais je n'ai jamais vu un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul.
Alors c'était Michel Girouard pour ne pas vivre seul. Alors maintenant, Denis Martin, on va parler de la grande autrice Marie-Claire Blais, qui nous a aussi quittés.
Tout à fait récemment, en fait, le 30 novembre, à l'âge de 82 ans. En fait, c'est tout le monde littéraire du Québec et de la francophonie, une autrice qui est connue dans le monde entier.
Oui, tout à fait.
Elle avait remporté un prix Médicis, si tu te rappelles, pour une saison dans la vie d'Emmanuel.
Oui, son roman, oui.
Ah, c'est un roman qui l'a fait connaître. Hein. C'est un roman qui se situe à une époque où le Québec est plongé dans la grande noirceur. Ça, c'était bien avant ton temps. Tu ne vivais pas au Québec à l'époque, mais
non.
On peut te parler du duplessisme qui revient assez régulièrement ici.
Oui, mais j'ai appris l'histoire.
C'est avant mon temps aussi, mais je t'assure qu'il paraît que c'était vraiment pas drôle. Alors,
le
roman tourne autour d'Emmanuel, dernier-né d'une famille nombreuse, élevée par une grand-mère omniprésente aux soins du foyer paternel. Autour de lui, bien évoluent ses frères, ses sœurs, ainsi que ses parents, des personnages qui refusent de vivre dans la misère malgré la pauvreté et la maladie. C'est vraiment un thème qui a été assez récurrent au Québec, la grande misère, la pauvreté.
Oui, c'est ça.
Oui. Beaucoup de romans au Québec de ces époques-là parlent de ça. Les choses ont changé depuis, mais on a des romans autour d'une table de cuisine. On le voyait à la télévision aussi, d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire. Ça a été traduit, pardon, j'en bégaye, dans plusieurs langues.
Oui, oui. Alors, ça c'est extraordinaire, plus de 2000 livres, thèses, articles, critiques, entrevues qui ont été rédigées sur le roman Une saison dans la vie d'Emmanuel. Quelque chose, hein? Et puis, Dieu sait les nombreuses interprétations qui en ont fait la critique littéraire, qui représente un hommage tout à fait à la complexité du roman. Mais pourquoi je vous parle d'elle, c'est que vous savez que elle a été pendant plusieurs années la compagne de la peintre d'origine américaine Marie Meigs, décédée en 2002. Alors Marie-Claire Blais, oui, ne parlait pas beaucoup de sa vie privée, mais ne cachait pas le fait qu'elle aimait les femmes.
Oui, c'était reconnu aussi. Passons un petit peu dans le monde du journalisme avec Michel Joanny Furtin.
Oui, peut-être quelqu'un qui est moins connu dans la communauté en général, mais c'est Michel, ce cher Michel. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, un hédoniste de première classe, un homme qui aimait le bon vin, la bonne bouffe et la bonne vie.
Et qui venait de la France, non?
Ben voilà, qui venait de ton coin du monde, ben oui, hein? Mais une personne incroyable. C'est un journaliste donc rigoureux, à en être même intempestif. Michel a raconté la petite et la grande histoire récente des communautés de LGBTQIA+. Dans ses nombreux articles publiés dans le magazine Fugue ici au Québec.
Alors, pour d'autres raisons, il y avait une autre personne dont tu voulais nous parler, une autre mort à noter, c'est celle de Bernard Lachance.
Oui, j'en parle parce que je trouve vraiment que c'est terrible ce drame-là. Alors, Bernard Lachance, c'est un chanteur qui avait réussi à faire croire qu'il avait loué une grande salle de spectacle à Chicago tout seul et qui avait vendu tous les billets. Avec un T-shirt qui avait le plan de la salle sur lequel il était imprimé. Il avait réussi à berner des reporters de télévision et même
Oprah Winfrey
l'a invité. Alors, je vous dis ça parce que c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Je me dis, mon Dieu, il faut vraiment vouloir faire des choses. Mais il est devenu un peu persona non grata, je pourrais dire, parce qu'il a été très actif dans les cercles complotistes récemment. Il affirmait que le sida et la COVID-19 étaient des inventions des Big Pharma. Eh bien, lui, il est mort cette année des complications liées au VIH. C'est ce que conclut donc le rapport du coroner Pierre Bellil. Mais durant les semaines qui ont précédé sa mort en mai 2021, Lachance avait affirmé dans plusieurs médias alternatifs qu'il s'il en venait à mourir, c'était parce qu'il avait été assassiné par les Big Pharma qui cherchaient à le faire taire. Alors, ces thèses conspirationnistes, négationnistes au sujet de la maladie avaient été largement relayées par des têtes d'affiche de ce mouvement d'opposition aux mesures sanitaires. Alors bon, il y a quand même eu des études qui ont été faites, une autopsie qui a été pratiquée sur son corps, puis il est bel et bien décédé d'une septicémie bactérienne liée à une infection au VIH. C'est incroyable, on ne meurt plus du VIH au Québec. Et lui, elle en est mort parce qu'il avait cessé de prendre ses traitements là, pour ses convictions. Et les gens qui l'appuyaient là, dans sa folie, ben, lui ont fait prendre tout plein de médicaments bidons. Et on lui a fait boire de l'eau salée. Alors, il est mort vraiment dans la souffrance. Ses sœurs l'ont déploré. C'est vraiment triste.
D'accord. Alors, un autre nom sur ta liste, Ali Fazeli Monfared.
Oui, alors peut-être un nom qui ne vous dit rien. Mais moi,
non.
Je veux dire encore quelque chose de très honteux qui s'est produit. En fait, c'est un drame, c'est une horreur. Alors, Ali Fazeli Monfared est iranien. La famille avait appris son orientation sexuelle par son exemption du service militaire pour cause de dépravation sexuelle.
Ah, d'accord.
Alors, Jean-Guy a été assassiné par son demi-frère et deux cousins le 4 mai.
Ah, mon Dieu, quelle
horreur. Un homme de 20 ans a été décapité en Iran par ce qu'on appelle une espèce de crime d'honneur après que sa famille, donc, avait appris qu'il était gay. Son demi-frère, alors, il a dit, il s'était plaint de son physique. Il estimait qu'il déshonorait et qu'il faisait honte à sa famille. Ça, c'était dans l'Iran War. Je vais continuer parce que je termine avec des choses beaucoup moins jojo. Non? Il y a 462 personnes qui sont mortes en 2021 en raison de la transphobie, selon le Trans Murder Monitoring et le Trans Respect Transphobia.
Mais il y a aussi quelqu'un qui est décédé tout de suite là en début de 2022 et que tu tiens à mentionner.
Oui, je voudrais rendre hommage. Je sais que c'est 2022, je devrais attendre en 2023 pour le faire, mais je vais le faire tout de suite parce que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est mort vraiment. Quelle mort stupide. Il a été happé par une auto à Rivière-Rouge, dans le Laurentide, où il habite.
Il s'appelle alors, comment?
Il s'appelle Hector Favio Duque Gomez, mais on va l'appeler Hector Gomez. Ça, c'était son nom qu'on utilisait. Il avait créé ADA, c'est-à-dire Au-delà de l'arc-en-ciel, un organisme à but non lucratif créé peu de temps après son arrivée à Montréal en 2007.
C'était quoi cette cause?
C'est une cause, c'est justement d'arrêter la discrimination envers les personnes gays, les personnes homosexuelles. Et ce qu'il faisait, il allait avec son groupe dans les stations de métro à Montréal, auprès des tourniquettes, et il donnait de l'information aux gens, il interpellait les gens et jasait avec eux de l'homosexualité. Et ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui nous est arrivé de Colombie. Il est arrivé comme réfugié ici
comme réfugié politique.
Ouais.
À cause des risques qu'il courait de par ses orientations sexuelles, c'est ça?
Incroyable. Tout à fait. Alors, c'est quelqu'un qui est venu faire du bien ici au Canada. C'est quand même génial. Et moi, je me rappelle de lui parce qu'il m'invitait à ses émissions de radio. Et je parle un peu espagnol, comme tu le sais, mais pas si bien que ça. Il insistait pour que je donne des entrevues à la radio. Alors, et c'était tellement drôle, mais je ne pouvais pas lui dire non. C'était quelqu'un qui voulait tellement bien faire les choses. Il s'est impliqué beaucoup, beaucoup. Et c'est tellement bête de mourir comme ça. Sur le coin de la rue, c'était mal éclairé. Alors, et c'était un bête accident. Là. La personne n'était pas en état d'ébriété. Il ne l'a pas vu sur le trottoir. Il l'a happé.
Dans son histoire, quand tu m'en as parlé, dans son histoire, dernier d'une famille de 7 enfants, il a quand même, ça c'est le truc le plus horrible qu'on puisse entendre de la part de nos parents, c'est que son père lui aurait dit qu'il préférait avoir un délinquant ou un alcoolique dans sa famille plutôt qu'un homosexuel. On peut dire des choses pareilles à son enfant?
Ouais, faut dire là, qu'on recule parce que Hector a à peu près le même âge que moi. On recule à une époque où faut dire aussi que les pays d'Amérique du Sud ont quand même des traditions plus machistes que les nôtres. Alors c'est sûr que ça passe moins bien l'homosexualité d'un fils. Mais sa mère l'avait quand même bien accepté.
Oui, bien soutenu, heureusement.
Oui, elle l'a soutenu. Il est allé étudier à Bogota en architecture. Il vivait avec un garçon là-bas. Mais il a été enlevé par les FARC, hein, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Alors, c'est quand même pas rien. Il a réussi à s'échapper et c'est là qu'il est allé se réfugier à l'ambassade du Canada et apporter certaines preuves. Il a demandé un visa et il a pu immigrer au Canada en 2000. Alors, il est avec nous depuis presque 22 ans.
Ah oui.
Non? Et il avait une émission de radio. J'aimais beaucoup le titre de son émission de radio. Elle a Mario Abierto, hein, sur 5 FM 105,3. C'était l'armoire ouverte en français. C'est vraiment beau.
Ah oui, c'est un beau nom d'émission. C'est vrai, t'as raison. Oui, vas-y.
Oui. Il s'est recyclé donc comme travailleur social et c'est un peu ça qui l'a amené à faire sa mission dans les stations de métro à Montréal. En tout cas, les stations de métro vont être beaucoup moins agréables depuis avec son départ.
Qui n'est plus là. Alors, on va finir sur une note un petit peu plus gay, disons-le.
On va parler de moi.
On va parler de toi.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'est arrivé cette année?
Ben, écoute.
Cette fin d'année, ce cadeau de l'année.
Cette fin d'année, oui. Alors, j'ai été choisi l'homme de l'année 2022 dans le cadre des activités d'Au-delà des hommes. C'est une compagnie qui appartient au photographe Dominique Trudeau qui fait des photographies d'hommes. Il fait même des photographies de femmes maintenant. Et puis, il m'avait proposé de me présenter. Je disais, si je le fais, c'est quand même pas c'est un concours de beauté. Je disais, on s'entend qu'à 60 ans... on n'est plus très beau, là.
Non, on a dit 40 et 20.
40 et 20, c'est vrai. C'est vrai, tu me rappelles à l'ordre. Alors, mais j'ai dit, je vais le faire parce que je vais montrer aux gens que on peut se sentir bien dans sa peau à tout âge.
Oui.
Et peu importe son statut sérologique, parce que, bon, évidemment, moi, je suis une personne qui vit avec le VIH et je voulais faire un... Parce que les jeunes diraient un statement. Je voulais donc faire un point, de montrer quelque chose aux gens. Et je me suis présenté et ben voilà, et le jury, il y a eu un vote, mais il y avait aussi le jury qui m'a choisi. Et j'ai l'intention cette année, donc j'ai 4 sessions de photos à faire avec lui. Puis j'essaie de penser à des trucs qui vont faire en sorte que pas cacher mon âge, pas du tout, mais faire des trucs, des photos assez drôles ou sérieuses qui vont démontrer qu'on peut se sentir bien dans sa peau malgré
tout. À fait.
Et je trouve que là, on a besoin de ce message-là. Puis peu importe aussi ce qu'on a comme part. Moi, évidemment, je ne suis pas un homme musclé, loin de là. Je suis plutôt un maigrichon, comme les gens qui ont vu mes photos peuvent le voir et le constater. Et bon, écoute, je m'en fous. Évidemment, à l'âge que j'ai, on a de la peau flasque un peu, là. Ça commence à apparaître.
Tu tiens bien, bon. Tu tiens bien. Tu cherches la flatterie, Denis Martin.
Non, mais je suis très conscient de ce que j'ai. Mais ce que je veux, c'est de démontrer que non, tout le monde est beau. Il faut arrêter d'avoir...
Oui, chacun à sa manière.
Ouais.
Chaque être humain est unique.
Les Français utilisent le body fascisme comme expression. Je trouve absolument génial, d'ailleurs. Tu sais, il faut que tout ça doit changer. Oui. L'âgisme, il faut changer tout ça. Puis je pense que j'ai envoyé un message, là, tu sais, faites-vous du bien, soyez bienveillants envers vous-même.
C'est vrai.
Oui, puis tu sais, je suis quelqu'un d'assez... j'étais très, très, très fermé sur qui j'étais avant. Jamais je me serais présenté à Beden quelque part. Là, je le fais maintenant, je m'en fous.
Voilà.
J'ai même posé lui dans un calendrier cette année que tu as vu d'ailleurs.
C'est vrai, que j'ai vu aussi et que j'ai acheté.
Attention, là, c'est nu, mais là, on cache la crevette quand même. Hein?
Alors, pour justement, ben, écoute, un petit hommage à toi et à tout ce qui s'est passé aussi. Donc, on va partir en chanson, puisque on finit l'émission ensemble. On va partir en chanson, on se retrouve tout de suite après. On va écouter Shirley Theroux qui nous chante « C'est beau un homme ».
C'est vrai.
On y va.
C'est beau un homme, c'est si beau un homme. On est toujours fier de se montrer au bras de l'homme. Mais l'on sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres hommes. C'est beau un homme, c'est jaloux un homme. Il a toujours dans l'idée qu'il existe un autre homme. Mais en riant, dites qu'il y en a 100. Le voilà rassuré pour quelque temps. Un homme en colère, c'est terrifiant, ça casse tout un homme. Pourquoi pleurer l'orage passé? Vous aurez un enfant à consoler. Toutes les femmes en somme, il n'est jamais tout à fait discret. On ferme les yeux quand on aime un homme, mais on sait qu'on partage un petit peu son âme.
Nous voici à la fin de cette émission. Dans les quelques secondes qui nous restent, je voulais te dire merci, Denis Martin Chabot. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir. Et puis encore bravo pour ton prix. Merci aussi à Laurie Perron qui a été avec nous en début d'émission. Et puis merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Donc on se retrouve demain. Et puis toi, Denis Martin, ben, on se retrouve dans un mois.
Dans un mois
pour,
certain, oui.
Pour une nouvelle aventure. Et puis en pleine forme, évidemment. Donc tout ira bien avec peut-être des nouvelles photos qui auront été faites.
Peut-être, mais espérons qu'on pourra se voir en studio aussi. Là, on a dû prendre une petite pause de studio parce que j'ai eu la COVID récemment. Alors, on va essayer de se revoir en studio le mois prochain.
D'accord. Ben, viens quand tu es guéri. Voilà.
Pas de problème.
Donc, ça sera bien. Je ne sais pas si tu avais entendu Laurie Perron, mais Laurie Perron était venue nous présenter la troisième saison du balado queer, féministe et interrégional, tout ou pantoute. Est-ce que tu connais?
Je connais pas, je vais aller faire une petite recherche sur Google tout à l'heure.
Alors, je te le conseille parce que dans ce qu'elle nous expliquait, c'était vraiment hyper intéressant et elle va avoir plein d'invités qui vont parler de sujets différents. Donc, tout un apprentissage à faire ou pour ceux qui connaissent, voilà, d'en savoir un petit peu plus. Merci encore à tous et toutes. Merci Denis Martin. Au revoir tout le monde et à demain pour les auditeurs, les auditrices et les auditeurs. Et toi, bien, au mois prochain.
D'accord.
Bonne continuation, Denis Martin. Au revoir.
Au revoir.